On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Et c'est l'heure de la chronique Consti avec notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour Patrick.
Bonjour Antoine.
Un petit mot sur le budget peut-être en commençant parce que c'est la semaine budgétaire. Le dépôt a été fait mardi par Éric Girard et c'est son sixième budget et ça fait beaucoup jaser parce que le retour à l'équilibre budgétaire, ben ça va nécessiter peut-être un effort d'Ottawa.
Oui, et le fédéralisme fiscal, là, c'est toujours un problème au Canada, parce que justement, sous l'angle des impôts, sous l'angle des dépenses publiques, mais en vérité, il n'y en a pas de règles. Chacun fait ce qu'il veut, il perçoit autant d'impôts qu'il le souhaite. Le fédéral perçoit autant d'impôts, c'est premier arrivé, premier servi. Le Québec pourrait monter ses impôts si politiquement il se croit capable de le faire. Donc on mange
on
la même tarte.
C'est ça que dit le ministre à la conférence de presse. On vient juste les baisser, ça c'est exclu.
Ouais, et on se nourrit à la même assiette fiscale et c'est la loi un peu du plus fort, du premier arrivé, premier servi, parce que y a pas la cohérence. Logique qui voudrait que chacun dépense juste dans ses champs de compétences. Déjà, ça ferait en sorte qu'Ottawa s'occuperait de ses affaires. Et deuxièmement, on prélève des impôts en fonction du niveau de responsabilité qu'on a. Donc, Ottawa a des responsabilités importantes. L'armée, ça coûte quelque chose. Mais Ottawa ne devrait pas percevoir des impôts pour financer les trucs d'une province puis qu'on fasse circuler l'argent. Or, là, on c'est pas nouveau ce problème-là, mais le contraste avec un Québec là, qui entre dans un déficit historique et un fédéral qui, lui, se permet de nouvelles dépenses, de saupoudrer, d'avoir des idées dans des champs de compétences qui ne sont pas les siens, mais ça révèle cet immense contraste-là entre un fédéral qui emmène large, qui occupe une grande part de l'assiette fiscale et des provinces qui...
Peut-être un petit mot, tu as parlé de l'armée.
Oui.
Et s'il y a un poste budgétaire où le fédéral a sous-investi, on est d'une certaine façon en guerre actuellement.
On a des engagements envers l'OTAN.
Puis le monde est de plus en plus inquiétant. Il a sous-investi dans l'armée.
Bien sûr.
Justin Trudeau a refusé un contrat pour renouveler nos chasseurs. Et finalement, il va falloir en acheter pareil. Alors, des fois, j'aurais envie que les provinces disent au fédéral, occupe-toi donc de ça, là.
Bien sûr.
Ça, c'est clair dans
Exactement.
La Constitution.
Mais au fond, c'est que notre Constitution, elle organise qui peut faire des lois, mais elle n'organise pas qui peut dépenser. Et là-dessus, on pense qu'on est organisé par du droit, mais non, c'est plutôt des simples rapports de force. Puis le Québec, dans tout ça, puis là, on se parle, là, mais aujourd'hui, le premier ministre du Québec et Justin Trudeau vont se rencontrer là au moment où nous, on enregistre.
Oui, nous, on enregistre jeudi après-midi.
Ouais, bon,
la rencontre
a lieu
vendredi. Oui, c'est ça.
Et c'est triste, là, mais notre premier ministre, puis bon, je personnalise pas à M. Legault, là, il y en a d'autres qui ont joué dans ce film-là, il va avoir l'air d'un quêteux. On a déjà eu un travail sérieux avec la commission Séguin pour penser comment on veut gérer ces questions de fédéralisme fiscal, mais en pratique, dans le suivi, là, tout ce qu'on fait, c'est demander plus d'argent puis de creuser davantage notre dépendance. C'est quoi notre véritable stratégie? Puis j'écoutais cette semaine à distance une conférence d'un collègue ami Guy Laforêt, mais qu'on peut pas soupçonner d'être hostile à la coalition Avenir Québec, il a été lui-même président de la DQ. Et il livrait un constat très, très, très sévère que ce gouvernement, peut-être encore plus que d'autres, n'a pas de stratégie dans ses relations avec Ottawa. C'est quoi sa stratégie pour réagir, par exemple, à l'Alberta qui revendique une réforme fiscale? C'est de rien faire parce que peut-être que si on ouvre le débat, on va peut-être perdre un peu le chèque qu'on a déjà. Dans le dossier de l'immigration, on en parlait la semaine passée. On pourrait peut-être réouvrir l'entente Québec-Ottawa. Ouais, mais l'entente contient des transferts assez généreux. D'un coup, qu'on perdrait notre chèque. Et donc, cette dépendance financière, cette posture du premier ministre du Québec quêteux, ça nous empêche d'avoir une vision claire de c'est quoi notre intérêt. Et on parle souvent à ce micro de « oui, il y a un autonomisme dans le reste du Canada présentement, mais le problème, c'est qu'on veut pas être autonome ces mêmes affaires. » Dans l'Ouest, c'est sur des sujets un peu infréquentables, le pétrole, les armes à feu, ils veulent être autonomes sur des affaires où on a de la difficulté à se mettre d'accord. Peut-être que sur l'argent, peut-être que sur l'impôt, peut-être que sur le fiscal, même s'il y a une tension entre le Québec qui reçoit beaucoup de péréquations, peut-être que c'en est un rare sujet où on aurait avantage à se parler. Imagine si à la veille de l'élection fédérale, là, on avait 7, 8, 9 provinces unies pour un nouveau pacte fiscal. Et là, on disait à Poilievre, à Justin Trudeau, embarquez-vous ou vous embarquez pas? Mais non, nous, tout ce qu'on fait, c'est on quête un chèque pour nos affaires à nous, avec aucun rapport de force, puis avec des demandes très imprécises.
C'est important ce que tu dis, d'autant plus que ce matin, à la période de questions, le premier ministre a dit « Je vais réclamer tous les pouvoirs ». C'est une question de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et Paul Saint-Pierre Plamondon lui a dit en deuxième question « Et s'il refuse à la rencontre là, qui va avoir lieu vendredi ?» Et le premier ministre a dit « On va examiner nos options
ouais. ».
Et la question s'est regardée sur la tribune de la presse, mais quelles vont être ces options? Moi, j'ai posé des questions. Puis, c'est quoi? C'est un référendum? Une grande commission, justement, sur l'immigration? Ou est-ce que c'est un recours judiciaire? Mais ça serait difficile, dans une compétence partagée comme celle-là, de plaider. Est-ce que le Québec a vraiment une cause? Mais donc, les options sont pas évidentes. Ouais, mais... là. Et comme tu dis, il y a que la posture du quémandeur qui...
Mais ce sont des options à envisager. Mais surtout celle d'une grande commission. Parce que si au moins on avait les idées claires sur ce qu'on...
Ou d'un front uni avec, mettons, Daniel Smith.
Au moins, si on avait les idées claires sur ce qu'on revendique, ce serait déjà un début. Et regarde la réponse de ce matin. C'est on va exiger le rapatriement de tous les pouvoirs. Parfait. Mais il y a des sujets pour lesquels la solution, c'est pas le rapatriement des pouvoirs. Il y a des sujets pour lesquels la solution, c'est pas toujours d'avoir un plus gros chèque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces sujets où le fédéral a un rôle à jouer, puis il va continuer à jouer un rôle, mais il faut encadrer son rôle, il faut encadrer son action. Ça, là-dessus, là, c'est là où nos revendications sont les plus faibles, et c'est là qu'on nuit souvent à nos propres intérêts. Donc, moi, je suis pour ça, là, le rapatriement de pouvoir, j'ai rien contre ça. Mais des fois, ça devient comme une solution magique, et ça nous empêche de voir que certains de nos problèmes sont ailleurs. On peut bien rapatrier nos pouvoirs si le fédéral continue à dépenser dans les champs de compétences qui sont pas les siens. Il faut d'abord encadrer son action. Et donc, moi, je suis un peu inquiet parce qu'on a bien beau exiger des transferts en santé qui sont en retard, on a bien beau exiger un milliard pour les demandeurs d'asile, 3 milliards pour le dentaire, pour l'assurance dentaire. À la fin, même si on a le chèque, c'est juste notre dépendance financière qui va s'accroître. Donc, oui, j'aimerais ça soit fiscalement plus autonome. Mais il faut trouver une solution plus à long terme. Et là, on regarde le dossier du dentaire, Antoine. L'assurance dentaire, c'est pas juste une intrusion, là. Il faut le rappeler. C'est aussi une privatisation des soins de santé. Parce que pour ne pas coopérer avec les provinces, n'étant pas capable de gérer un système d'assurance dentaire, mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement fédéral? Il a privatisé le service. Il a confié un mandat à une entreprise d'assurance privée qui est la Sun Life Canada. Tout ça avec le cautionnement d'un gouvernement néo-démocrate progressiste qui préfère jouer dans le film de la privatisation du système partielle que de jouer dans le film de la coopération avec les provinces. C'est très symptomatique et très emblématique de cette espèce de crise du fédéralisme canadien. Puis l'avenir est pas prometteur, Antoine. Regarde les ambitions du fédéral en immigration. Regarde ce que ça a comme conséquence sur le plan démographique. On a beaucoup parlé de la baisse du poids politique du Québec que cela entraîne. Mais là, on le voit dans le budget. C'est pas juste la baisse du poids démographique, c'est aussi la baisse de la part du Québec dans les transferts fédéraux. Et là, je dis dans les transferts fédéraux au sens large, les transferts sans condition, les transferts avec condition, les transferts de péréquation. Là, on parle dans le présent budget d'une réduction de 6%. C'est pas rien, là. C'est quelques milliards de plus dans notre déficit qui se creuse parce que, ben, c'est pas que le fédéral se désengage, mais c'est que la tarte qu'il distribue, si le Québec représente 25 % de la population, ben dans certains cas, il y a 25 % de la tarte. Puis avec la péréquation, il y a un calcul axé sur les capacités fiscales de chaque province. Mais si on représente une population moindre, si on a un déclin démographique, puis après ça diminue notre part des transferts, Puis ensuite, suivant notre performance économique, ben c'est aussi notre part de la péréquation qui bouge. Donc moi, je vois difficilement comment on pourrait imaginer des lendemains radieux et verdoyants sur le plan du fédéralisme fiscal. C'est une dynamique que l'on connaît déjà, mais qui perdure et qui ne s'améliore pas du tout.
Tout autre sujet maintenant, on va parler de ce commentaire d'une juge, la juge Sheila Martin, une espèce d'obitaire dans un jugement où elle a parlé de personne avec un vagin. Est-ce qu'elle a exclu le mot « femme » Là, je te pose la question, je t'avais pas vraiment averti, excuse-moi, mais oui, tu es un sage du comité… Des sages sur ces questions. Je demande pas des primeurs, Patrick, mais qu'est-ce que tu as pensé quand même, toi qui critique assez les jugements assez souvent.
Je vais essayer de pas. Je vais répondre avec un certain devoir de réserve, puisqu'effectivement mon travail sur le comité sur l'identité
de genre.
Ce serait
sage de ta part.
M'appelle à évidemment peut-être. Contourner le fond de l'affaire, mais je peux te confirmer pour avoir jeté un coup d'œil sur la décision qu'effectivement, la controverse, elle est au paragraphe 109 de l'affaire Kruk, K-R-U-K, affaire dramatique, une agression sexuelle. En première instance, la femme l'emporte et en appel, elle perd. Et c'est beaucoup version contre version, donc la femme est intoxiquée. Elle n'est pas tout à fait consciente, mais quand elle se réveille, elle est certaine d'avoir été agressée. Là, l'autre, il dit, ben non, elle l'a imaginé. C'est une affaire extrêmement malheureuse, extrêmement délicate. Et oui, le paragraphe 109 existe. La juge Sheila Martin, elle dit, lorsqu'une personne ayant un vagin témoigne, blablabla. Puis elle va un peu plus loin, même elle dit à un moment donné, bien que le choix du juge de première instance d'utiliser les mots, entre guillemets, une femme puisse avoir été regrettable et creuser la confusion. Je sais pas pourquoi elle fait la morale au juge. Je pense que les juges peuvent bien utiliser les mots qu'ils veulent pour décrire la réalité, mais là, non seulement elle veut marquer l'histoire, puis dire je suis la première à utiliser un langage non genré.
Ouais, ouais.
Et mais en plus, je vais le reprocher au juge de première instance. Donc, bref, c'est un paragraphe 109 qui est assez ambigu, qui va évidemment susciter la controverse dans le climat qu'il note là, de polarisation.
Ça a déjà commencé.
Toutes ces questions, c'est souvent une façon de faire de la politique sur le dos des personnes concernées directement par ces questions-là. Mais factuellement, le paragraphe existe. Par contre, quand on lit le reste de la décision, il est faux de dire que le mot « femme » est tabou dans l'affaire. Quand on lit la décision, on voit que le mot « femme » existe dans le reste de la décision. Il est souvent entre guillemets, mais il existe. Et il est souvent associé au passé, c'est-à-dire qu'on parle à un moment donné des femmes par rapport à la vieille agression de viol qui existait jadis dans le code criminel. Puis là, la juge dit cette conception du viol qui existait jadis était trop genrée, puis ça jouait contre les femmes. Fait que, bref, elle parle des femmes. Quand elle parle au présent, la juge utilise surtout des formules très épicènes comme la personne agressée sexuellement ou la personne plaignante. Mais il y a ce paragraphe 109 où on sent que la juge Martin veut marquer l'histoire puis dire voilà, je suis la première à dire les choses ainsi. À travers tout ça là, c'est pas anodin. Il y en a qui vont nous dire c'est juste un choix de mots. Évidemment que c'est juste un choix de mots. Puis on peut utiliser toutes sortes de mots pour décrire la réalité. Sauf qu'on est quand même dans un contexte de tension, de guerre culturelle, de polarisation. Et quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, il nous a dit moi, le processus de sélection des juges, c'est pas idéologique, c'est pas politique. J'ai des comités, puis les comités, ils vont choisir à ma place. Puis ça va être juste la compétence qui compte.
Ouais.
Alors la juge Sheila Martin.
Ben, là, tu ramènes cette question.
C'est parce que la juge Sheila
Martin,
on en a déjà parlé à ce micro, là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, elle se positionne avec un langage qui est, mettons, à l'avant-garde du néo-progressisme. C'est aussi parce que Judy Wilson-Raybould, la ministre fédérale de la Justice de Justin Trudeau, elle a démissionné, puis qu'elle a réglé ses comptes avec le premier ministre. Ben, une des choses qu'elle nous a dit, elle nous a parlé de la libéraliste, évidemment, mais une des choses qu'elle nous a dit, c'est que
oui, ça rappelle juste.
Ben, c'était que avant de nommer les juges, le gouvernement de Justin Trudeau prenait le temps de mettre les noms dans la base de données du parti, comme ça ils pouvaient savoir qui a déjà participé à un cocktail ou déjà été membre du parti, etc., etc. Et Judy Wilson-Raybould avait dit, ben, au moment de nommer la juge Sheila Martin, c'était pas mon choix, moi, ministre de la Justice de Justin Trudeau.
Ah oui.
C'était pas non plus le choix du comité de sélection indépendant administratif qui faisait une présélection. Et la ministre et le comité recommandaient Glenn Joyal. juge en chef de la cour d'appel du Manitoba. Et Justin Trudeau l'avait écarté parce qu'il l'avait jugé justement trop conservateur, trop
sensible à la souveraineté parlementaire.
Exactement, il avait donné une conférence qui avait le mot souveraineté parlementaire dans le titre. Et Monsieur Trudeau avait renversé la recommandation de sa ministre du comité pour dire ben moi c'est Sheila Martin ma championne. Puis aujourd'hui ben d'une certaine façon on voit que il est un peu récompensé parce que cette vision assez ce vocabulaire assez trudeauiste ben il se reproduit dans la jurisprudence. Certains s'en réjouiront, certains vont le déplorer. Puis sinon ben je veux pas te parler du fond là mais en une minute si on veut inclure tout le monde là. Et si on veut respecter le droit de chacun de vivre conformément à son identité de genre, là, dans ce dossier-là, là, on avait affaire à une femme. Alors peut-être qu'on pouvait l'appeler femme, puisque c'est comme ça qu'elle s'identifie.
Elle s'identifie comme ça, bon.
Et dans d'autres dossiers, ben on s'adapte. Puis on vit dans une société où, Dieu merci, il est pas nécessaire de passer au bistouri puis de subir une lourde chirurgie génitale pour être un homme trans. Mais moi, mon hypothèse, c'est que oui, l'homme trans peut être cette personne ayant un vagin dont nous parle la juge Sheila Martins, mais je pense que la grande majorité des hommes trans veulent être respectés dans cette identité qui est la leur. Donc, ils veulent se faire appeler homme. Et si un jour on avait un cas comme celui-là avec un homme trans qui aurait été victime d'une agression sexuelle, je suis pas sûr que ça serait la meilleure façon de respecter son identité de genre que de constamment rappeler que c'est une personne avec un vagin. Il me semble que si on veut prendre les gens comme ils sont, les inclure puis les respecter leur choix, pas sûr que c'est l'expression la plus habile pour un homme trans de l'appeler, de rappeler sans cesse que c'est une personne dans certains cas du moins. Ayant un vagin. Mais je m'arrête ici parce que je veux pas outrepasser les travaux délicats que l'on mène sur la question, mais je trouvais quand même qu'il y a beaucoup plus de positionnement là-dedans sur le spectre gauche-droite qui anime nos tensions et notre polarisation qu'une véritable prise en compte là, du sort des personnes.
Très intéressant, oui. Merci, cher sage. je me reprends. Merci, cher sage. Donc, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci et à la semaine prochaine.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.